Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon jeudi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette derrière le micro, là, avec vous pour les 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Vous dire d'abord qu'au Québec, seulement, il y aurait à peu près 25 000 personnes qui se blesseraient chaque jour, et attention, avec un ordinateur et une souris. Oui, ça peut paraître un petit peu fou, mais c'est lié entre autres aux gestes plutôt réguliers, aux gestes répétés que l'on fait, que ce soit avec notre poignet, nos bras, nos coudes et nos épaules. Et souvent, la blessure que ça engendre, c'est de la tendinite. Tout à l'heure, en deuxième partie de l'émission, notre infirmière en résidence, Jocelyne Gadebois, sera là pour nous aider à, ben, premièrement, identifier la tendinite, hein, les différents symptômes, mais aussi comment la prévenir et la traiter. Aussi, vous parlez de notre meilleur ennemi. C'est un petit non-sweet que je trouvais plutôt approprié pour le sucre, ce sucre dont on raffole, mais en même temps qui est de plus en plus associé à des maladies. L'obésité, hein, on l'imagine bien, la carie, ça va de soi, diabète, maladie cardiaque, mais aussi, on ne le soupçonnerait pas, le cancer et la maladie d'Alzheimer. Et pourtant, on n'a jamais autant consommé du sucre au cours des 50 dernières années. La consommation mondiale a triplé. Et il n'y a pas juste des impacts sur notre santé à cette consommation de sucre, mais également sur l'environnement, sur notre économie. Et il y a un aspect aussi, une dimension qui est humaine, à laquelle on ne pense pas nécessairement. Catherine Lefebvre, nutritionniste, vient tout juste de sortir un livre qui s'intitule « Sucre, vérité et conséquences ». Et elle traite de sujets d'une façon très, très globale. Je la reçois à l'instant. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Merci d'être là. Tout nouveau bouquin qui arrive, je trouve, à un moment où on s'intéresse à l'impact du sucre sur notre santé. Ce dont on parle moins souvent, c'est cet impact sur l'environnement, sur l'économie. Vous en parlez dans ce livre. Mais d'entrée de jeu, j'ai envie de dire que le pauvre consommateur que l'on est a bien des responsabilités. Et bon, on tente de faire des efforts personnels à diminuer notre consommation de sucre. Moins de dessert, moins de chocolat, moins de bonbons. Même, on s'est dit, le jus, on va diminuer parce que de plus en plus, on le sait qu'il y a beaucoup de sucre dans le jus. Mais la faute, là, ça vient pas aussi de l'industrie parce que lorsque l'on regarde des produits qui semblent être santé, pain, yogourt, ben il y en a du sucre, là aussi.
Oui, en fait, là, justement, il y a une étude qui est sortie récemment qui dans le fond, qui mentionne que 90 % des aliments transformés contiennent du sucre ajouté ou des sucres libres dont on parle beaucoup. Là, la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé tient compte des sucres libres. Et donc, c'est autant les sucres qui sont ajoutés aux aliments, soit par l'industrie ou par le consommateur à la maison, au restaurant aussi, mais les sucres libres qui sont présents dans les jus de fruits, notamment. Donc, ça englobe tout ça. Puis effectivement, pour le consommateur, c'est très compliqué de s'y retrouver. D'une part, parce qu'il faut savoir reconnaître les différents types de sucres dans la liste d'ingrédients, parce que ce n'est pas rare de voir... 3, 4, 5 types de sucres différents se retrouver dans un même produit. Puis des fois, c'est pas nécessairement sucre de canne, sucre de betterave, miel, sirop d'érable. C'est des termes comme la dextrine, le sirop de glucose fructose. Donc, il y a vraiment plein de termes utilisés pour signifier du sucre. Et aussi, le tableau de la valeur nutritive nous donne pas beaucoup d'indices. Donc, tout ce qu'on a pour le moment, ce sont les sucres au pluriel, qui inclut autant les sucres naturellement présents dans les aliments comme le lactose dans le lait et les sucres ajoutés. Donc, pour faire la différence entre les deux, oui, on peut se dire, bon, ben, je vais regarder dans la liste d'ingrédients, puis si je vois apparaître un ou plusieurs types de sucres, je sais qu'il y en a, mais je ne sais pas combien il y en a. Parce que le chiffre qu'on voit apparaître dans le tableau de valeurs nutritives peut aussi inclure une petite partie de lactose, une petite partie de sucre naturellement présent dans d'autres aliments comme les céréales.
Et l'affaire, c'est qu'on n'a pas envie de sortir notre calculatrice là, à l'épicerie. On n'a pas le temps, on n'a pas cette envie. Il y a un petit truc que j'ai appris dans votre livre que je trouvais vraiment pertinent. Vous me direz si on peut l'utiliser, à savoir que lorsque c'est 5 grammes et moins, c'est raisonnable. 15 grammes et plus, c'est beaucoup trop. Est-ce qu'on peut se fier à ça?
Bien, en fait, ça, donc, c'est une nouvelle mention qui sera ajoutée au prochain tableau de la valeur nutritive dans le bas, ou pour nous indiquer, parce qu'effectivement, pour le consommateur, là, on parle beaucoup du sucre, donc ce sont les grammes de sucre, mais ça va aussi pour les grammes de lipides, les milligrammes de sodium. Donc, tout ce qui se retrouve dans le tableau, c'est bien beau de savoir combien de grammes il y a de protéines, X, Y, Z, mais de savoir qu'est-ce que ça représente dans l'alimentation. Puis encore une fois, c'est général. Donc, la colonne de droite, ce qu'on appelle la valeur quotidienne, le pourcentage qu'on voit apparaître dans la colonne de droite dans le tableau, c'est équivalent à ce qu'un adulte a besoin, un adulte qui aurait besoin de 2000 calories par jour. Donc, on l'évalue comme ça. Donc, cette mention-là de dire, par exemple, dans une soupe, moi, c'est l'exemple que je donne dans mon livre, une soupe commerciale, si on a, souvent, c'est plus 25 % là, mais disons, si on avait même 15 % de sodium, le pourcentage de la valeur quotidienne, ce serait considéré comme beaucoup de sodium pour une simple tasse de soupe. Mm-hmm. Si, à l'inverse, on tourne plus autour du 5 % là, ça devient intéressant. Donc, ça nous donne une meilleure idée à ce niveau-là. Par contre, au niveau du sucre, c'est pas évident parce que, étant donné qu'on fait pas la distinction entre les sucres libres et les sucres naturellement présents, l'exemple que je donne, c'est entre le jus et des pommes tranchées. Donc, on n'a pas de tableau de valeur nutritive sur les fruits et légumes non emballés, évidemment, mais une pomme tranchée aurait un tableau de valeur nutritive. Donc, on se retrouverait avec la même, grosso modo, la même teneur en sucre, mais évidemment, dans le jus de fruits, il n'y a pas de fibres. Donc, c'est pour ça qu'on tape tant que ça sur les jus de fruits. C'est que, puisqu'il n'y a pas de fibres, le sucre est absorbé beaucoup plus rapidement et c'est sous une forme liquide et tout ça. Et on est capable d'en avaler des grandes quantités et donc de grandes quantités de sucre à la fois. Donc, c'est pas la même chose, mais dans le tableau de valeur nutritive, étant donné qu'il n'est pas tellement précis, ça va sembler être la même chose.
Mais il me semble qu'il y aurait moyen de préciser ce tableau-là. Comme par exemple, l'Organisation mondiale de la santé va proposer à peu près 6 cuillerées de sucre par jour. Ça serait raisonnable. On ne pourrait pas l'inscrire sur les aliments. Combien de cuillerées
de sucre? Ce serait fantastique. S'il y avait si c'était présenté sous forme de cuillère à thé de sucre, ce serait génial. Parce que même les grammes, oui, on le répète, c'est pas plus que 50 grammes, c'est 12 cuillères à thé et demi. Ça, c'est vraiment le maximum de la recommandation de l'OMS. Mais 50 grammes encore pour le consommateur, c'est pas tellement clair.
Mm-hmm. Ce que l'on apprend également dans le livre, c'est que tous les sucres, bon, sont assez équivalents. Ici, au Québec, le sirop d'érable et rouan, on le considère comme un sucre noble avec, bon, les études scientifiques appuient maintenant la présence d'antioxydants, mais vous mettez un petit bémol à ça.
Oui, définitivement, parce que, d'une part, au point de vue du métabolisme, le corps ne fera pas la différence si c'est un sucre bio, si c'est un sucre peu raffiné, il va quand même l'absorber sensiblement de la même façon. Par contre, je précise aussi que, bon, si on dans une optique de consommer local, on peut dire on va opter pour le miel ou le sirop d'érable. Par contre, il ne faut pas que ça nous donne bonne conscience de dire « Ah, mais il y a des antioxydants. » On peut très bien aller chercher nos antioxydants dans les fruits et légumes qui ont plein d'autres avantages qu'une source de sucre nous apporterait. Donc, il faut juste faire attention dans ce sens-là. Mais moi, je trouve ça correct que ce soit un produit noble et que ça coûte plus cher parce que, justement, si c'est plus cher, maintenant, le sucre comme un luxe et allons-y avec parcimonie.
Oui, parce que ce n'est plus le cas et vous exposez ce fait-là il y a plusieurs années, nos ancêtres. Ben, le sucre, c'était une denrée rare. Et lorsque l'on en trouvait, il y avait quelque chose de précieux à tout ça. Tandis que maintenant, il est accessible, peu cher, et il se retrouve partout et engendre de nombreux impacts sur notre santé.
Effectivement. Donc, c'est ça. Donc, c'est autant, si on remonte vraiment à la préhistoire, là, dans l'évolution, la nature a fait en sorte, puis ça, je cite l'épidémiologiste américain, pas l'épidémiologiste, l'endocrinologue, pardon, Robert Luttig, qui dit « La nature a fait en sorte que le sucre ne soit pas facilement accessible. » Parce que la nature sait très bien que ça engendre plein d'impacts.
Lorsque l'on pense à une ruche, par exemple, qui est bien haut dans les arbres.
Oui, puis c'est complexe, là dans les populations, par exemple, en Afrique, qui vont chercher le miel dans ce genre de dans les ruches directement. Et l'humain l'a rendu accessible. Puis c'est pour ça qu'on le retrouve autant dans les aliments hautement transformés. C'est un ingrédient qui coûte pas cher maintenant. Et ça aide à on parle du bliss point, l'espèce de point de bonheur qui ça aide à l'acceptation des aliments. Donc, on va trouver la quantité maximale de sucre qu'on peut ajouter pour que ce soit agréable au goût et donc que ça invite le consommateur à revenir et en consommer davantage et davantage. Et donc, on remarque ça au fil du temps dans les produits, puis aussi les portions ont augmenté à travers le temps. Donc, à la fin, c'est non seulement la concentration dans les produits, mais le format qui fait en sorte qu'on en consomme autant aujourd'hui.
Mm-hmm. On a parlé du sirop d'érable, on pourrait parler aussi à l'inverse de ce sucre qui est peut-être le plus dangereux, le moins noble, le glucose, fructose, que l'on retrouve énormément, surtout dans les boissons énergisantes, je pense.
Dans les boissons sucrées, en fait. Les boissons sucrées en général, au Canada et aux États-Unis, je dirais là, 95 % c'est du sirop de glucose fructose ou en anglais « high fructose corn syrup ». Donc ça, en fait, c'est ça. Donc c'est une molécule, bien c'est à proportion, on a un petit peu plus de fructose, donc c'est 55 % de fructose, 45 % de glucose. Ce sont deux molécules qui sont pas liées. Donc déjà, d'un point de vue métabolique, c'est plus facile à absorber.
Ah oui.
C'est présent sous forme liquide, donc c'est beaucoup plus facile à ajouter.
On s'en rend moins compte, hein, aussi.
Bien, en fait, c'est ça. Donc, d'un point de vue juste opérationnel là, pour l'industrie, c'est plus facile d'ajouter un sucre liquide dans les aliments. Et en plus, étant donné qu'on le retrouve beaucoup dans les boissons sucrées qui sont une boisson, donc c'est facile d'en ingérer beaucoup. Donc, ça fait en sorte qu'on en absorbe des quantités phénoménales. Puis quand on pense justement à la fameuse canette de boisson gazeuse avec ses 10 cuillères à thé de sucre, si on pense au mouvement, vraiment ingérer ces 10 cuillères à thé de sucre-là, il n'y a pas grand monde qui ferait ça. Pourtant, boire une canette de boisson gazeuse, ça se fait très facilement.
Et même en boire deux ou trois dans la journée.
Oui, oui, deux ou trois, puis ça, il y a des consommateurs qui vont bien au-delà
ben
de
oui,
ça.
Ben oui, ce qui pourrait équivaloir à 30, 40...
Ben, une canette, c'est 40 grammes.
Voilà.
Donc, ça donne une idée.
Mais je reviens avec cette idée de vraiment les cuillères de sucre sur les produits. Ce serait très, très parlant.
Oui.
Autre chose qui est important de rappeler, et vous le mentionnez aussi, je pense, c'est votre rôle de nutritionniste, de dire que le sucre, on en a quand même besoin pour fonctionner. Notre cerveau en a de besoin. Il nous amène quoi, ce fameux sucre, à nous, humains?
Bien, en fait, techniquement, on peut très bien se passer de sucre ajouté. Mm-hmm. Ce n'est pas ma philosophie. Ma philosophie, c'est pas de dire on arrête complètement de manger du sucre. Par contre, d'un point de vue physiologique, on peut facilement aller chercher le sucre dans les glucides, bon, l'amidon, par exemple, ou dans les sucres de fruits entiers, pour justement nourrir autant notre cerveau qui carbure au glucose. Donc, lui, il a besoin de glucose pour fonctionner. Et aussi, ben, nos muscles, tous nos tissus, c'est notre source d'énergie numéro un. Donc, on en a besoin, mais on va aller le chercher dans les féculents, on va aller le chercher dans les céréales, dans les légumineuses, dans les fruits, dans les légumes. Il n'y a absolument aucun problème. Puis justement, il ne faut pas retomber dans la diète sans pain, là, puis de capoter, puis de vouloir tout éliminer les pains et tout ça. Ce n'est pas du tout de ça dont on parle dans mon livre. Mais c'est vraiment les sucres ajoutés qui ne sont pas nécessaires. Puis ça me fait toujours un peu... Bien, en fait, ça me fait pas rire du tout, là, ça me fait plus rire du tout. Je trouve ça épouvantable qu'on continue de diffuser ce message-là au niveau de plus de, des politiques, au niveau gouvernemental, de dire ben ouais. Il nous manque des données probantes. Oui, vraiment? Non, mais il y en a, moi, j'en ai plein de données probantes, d'une part, puis d'autre part, quand on pense à la santé de la population, qui manifestement ne va pas très bien, il n'y a aucun désavantage à réduire notre consommation de sucre ajouté, de sucre libre.
Excepté pour les industries.
Ben oui.
Et c'est ce que l'on comprend dans le livre.
Exactement, sauf que moi, je me dis, mais la santé de la population, c'est peut-être, j'ai l'impression d'être complètement naïve en disant ça, mais je me dis, il n'y a aucun effet secondaire. La population est très malade. Ça nous coûte extrêmement cher. Qu'est-ce qu'on attend? Parce que ça ne fera pas de mal à personne là, de couper dans le sucre. Dans les sucres libres, là, ça va juste faire du bien. C'est tout.
Catherine, vous êtes allée en Bolivie, à la Barbade aussi.
À la Barbade et au Brésil.
Au Brésil, pardon, oui. J'ai écrit Bolivie, mais c'est bien Brésil. Ouais. Brésil, Barbade, pour écrire, rédiger ce livre-là. D'ailleurs, il est rempli de très belles photos.
Merci.
Vous avez pu constater, donc, de par ces visites-là, ces voyages-là, l'impact aussi du point de vue, la dimension humaine, dont on ne parle pas beaucoup, qu'il y a la culture de la canne à sucre et l'aspect environnemental, parce qu'il y en a des impacts aussi de ce point de vue-là.
Bien, c'est ça. Donc, moi, je trouvais que le sucre, c'est ça, c'est l'ingrédient parfait pour se poser davantage de questions en tant que consommateur, étant donné que c'est un ingrédient qui vient de loin et c'est un ingrédient qu'on consomme énormément. Oui. Donc, oui, on peut penser à certains fruits exotiques, mais tu sais qu'il y en a trois au supermarché, ça a peut-être moins un impact dans nos vies puis dans la vie des autres. Mais le sucre, effectivement, même si on est extrêmement locavore, on en mange de toute façon. Même si on met du miel dans notre gruau, on mange du sucre de canne de toute façon. Donc, effectivement, je voulais aller voir qu'est-ce qui se passe maintenant dans les plantations aujourd'hui, mm-hmm. parce qu'on connaît l'histoire du sucre qui est vraiment très sombre, l'histoire de l'esclavage, en gros. Et aujourd'hui, ben c'est mécanisé dans la plupart des pays. En République dominicaine, c'est pas le même scénario. Dans le nord-est du Brésil non plus. Mais dans la grande, grande région agricole du Brésil, c'est très mécanisé. Le Brésil est le plus grand producteur de canne à sucre dans le monde. Donc, c'est vraiment une grande, grande machine. Et là, je dirais que les conditions m'ont apparu très correctes. Par contre, d'un point de vue environnemental, effectivement, c'est une monoculture. Et dans l'histoire, puis même aujourd'hui, dans l'histoire, le scénario, c'était on débarque dans les Antilles, par exemple, on rase tout, on plante de la canne, parce qu'à cette époque-là, justement, ça coûtait très cher, le sucre, et donc c'était très lucratif. Donc, il y a plein d'espèces de la flore qui sont disparues parce qu'on a tout rasé pour planter de la canne à sucre. Aussi, au niveau, bon, évidemment, de l'utilisation d'eau, ça va souvent être... Mm-hmm. La canne, en fait, n'a pas nécessairement besoin d'être irriguée tant que ça, donc... C'est pas comme d'autres plantes où, tu sais, bon, je pense aux amandiers, là, qui requièrent énormément d'eau, qui ont besoin d'être arrosés énormément. Mais on en consomme tellement.
C'est ça.
Tu sais, c'est toujours de se poser cette question. Puis dans le livre, en fait, je fais la comparaison avec le chocolat. Donc, faire pousser du cacao, ça exige beaucoup plus d'eau par kilo de matière à la fin. Mais quand on compare notre consommation, évidemment qu'on consomme plus de sucre que de chocolat à la fin de l'année. Donc, c'est toujours de prendre justement l'ingrédient dans son ensemble. Qu'est-ce que ça représente globalement? Puis je pense que justement, comme consommateur, on ne peut plus manger que pour nous.
Oui.
C'est impossible. Il faut penser aux autres. On pense de plus en plus à l'environnement, ce qui est une très bonne chose. Mais je trouve qu'on est encore... un peu déconnecté de ce qui se passe.
Du travail à l'autre bout. Oui,
ouais,
voilà. Global, je pense que ça définit très bien votre livre, Catherine Lefebvre, « Sucre, vérité et conséquences ». On doit se quitter, mais rapidement, c'est quoi le rôle du gouvernement ici au Québec et au Canada pour un petit peu contrer cette consommation sans cesse grandissante de sucre?
Bien, je dirais que le gouvernement du Québec est quand même... a quand même une longueur d'avance par rapport à Santé Canada dans sa position. Donc, le gouvernement du Québec et recommande la même chose que l'OMS, donc de réduire notre consommation de sucre libre à 10 % de notre énergie totale. Santé Canada, par contre, c'est pas clair. Donc, moi, j'espère que le changement de gouvernement va apporter de grands, grands changements. Je me croise les doigts. J'ai espoir, mais
pourtant,
il faut que ça bouge.
Pourtant, ce sont des médecins, hein, qui sont là.
Oui, mais...
ben, en fait, au Québec, plutôt. Mais,
oui, c'est ça.
Oui, voilà, avec le changement. Alors, Catherine Lefebvre, Sucre, Vérité, Conséquences, c'est chez Édito. Et puis, ben, je le rappelle, hein, vous êtes en plein dans cet engouement, cet intérêt. C'est un bouquin qui arrive vraiment à point. Bravo, Catherine Lefebvre.
Merci.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Marianne.
Jocelyne Gadbois, notre infirmière en résidence, là aujourd'hui pour nous parler d'un mal qui touche pas mal le monde.
Pas mal de personnes,
la
oui.
tendinite.
La tendinite, effectivement.
Et souvent, l'arme de la tendinite est aussi banale qu'un ordinateur et une souris.
Absolument. En fait, c'est la cause la plus fréquente, c'est des mouvements répétitifs.
Voilà.
Alors, toutes les personnes qui font à l'ordinateur se retrouvent un jour avec une tendinite au poignet, au coude, à l'épaule. Voilà. Alors, on me demandait, c'est quoi un tendon d'abord?
Oui.
Qu'est-ce que c'est un tendon? Et on a un tendon à plusieurs endroits du corps, pour commencer. Puis c'est comme une corde fibreuse et avec beaucoup de collagène dedans. Ça fait un tendon, c'est élastique. Et ça attache les gros muscles aux os.
Ah, d'accord.
C'est principalement ça, un tendon et le rôle d'un tendon en même temps.
Donc, des tendons, on en a aux chevilles.
On en a aux chevilles, tendons d'Achille. On a des tendons aux genoux. Mm-hmm. On a des tendons aux hanches. On a des tendons aux épaules, aux coudes, aux poignets. C'est à peu près ça.
Tiens donc, à plein d'endroits où
à
j'ai
plein d'endroits. En fait, autour des articulations, si on remarque.
Et voilà.
Autour des articulations principales.
Donc, action répétée, soutenue, on peut penser aux travailleurs, on pourrait penser aussi à des sportifs.
Aux sportifs, tout à fait.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont susceptibles de développer des tendinites?
Oui, les personnes qui sont polyarthrites, rhumatismal, ont tendance à avoir un affaiblissement des tendons.
Mm-hmm.
Donc, un dysfonctionnement des tendons, puis souvent une inflammation du tendon. Alors, ces personnes-là, dans les autres personnes à risque... J'ai regardé un peu, puis on a dit que les hommes, plus que les femmes... Moi, je pense que les hommes font peut-être plus de sport que les femmes.
Oui.
C'est peut-être à cause
Ils
de ça.
Ils sont peut-être aussi plus portés à faire des métiers, je pense, entre autres, à des ménagères, où on
oui.
fait souvent aussi la même chose,
oui.
ou des emplois, peut-être, de
oui.
moins en moins, bien sûr, mais
oui.
peut-être plus physiques.
Ça vient d'une étude d'une clinique orthopédique en 2008 aux États-Unis.
OK.
Alors, la référence, ça vient de là, mais plus les hommes que les femmes. Les aînés, effectivement, qui ont des muscles qui vieillissent avec le temps, moins élastiques, je le répète, les rhumatismes inflammatoires, les femmes ménopausées okay. également. Ensuite, ben, le facteur obésité est toujours présent.
Mm. Qu'est-ce que ça fait comme sensation, une tendinite? J'aurais l'impression d'une sensation de brûlure.
Ben, c'est une douleur, effectivement. Puis oui, ça peut avoir l'air d'une douleur et d'un élancement.
Ah, d'accord.
Un élancement. Et si c'est pas traité de la bonne façon, rapidement, ben, ça peut dégrader. Puis ça peut aller jusqu'à la dégénérescence du tendon. Et ça devient chronique, puis ce n'est plus réparable.
Et une dégénérescence amène que l'on ne peut plus
utiliser... une difficulté à mobiliser ses membres, ses articulations.
Et bon, le seul remède, ou en tout cas du moins le plus efficace, c'est d'arrêter de faire ce que l'on fait.
Voilà. Alors d'abord, pour faire le diagnostic de ça, qu'est-ce qui nous incite? C'est la douleur, la localisation de la douleur. Et on peut confirmer par une radiographie. Alors, en général, on ne va pas plus loin que ça.
OK, ça se voit sur une radiographie.
Bien, on va voir des zones d'inflammation, des zones... Ça va être gonflé aussi. Le tendon peut être enflé, donc gonflé. Et la douleur. Mm-hmm. La douleur est typique et la localisation de la douleur nous l'indique vraiment. Mm-hmm. Ils vont aller voir sur radiographie s'il n'y a pas de déchirure du tendon. Mm-hmm. Alors ça, on peut voir ça. Donc, c'est comme on l'a dit précédemment, la glace et le repos. Et l'élévation du membre, si c'est au niveau d'une jambe ou d'un bras, élévation et pas bouger. Glace et repos tant que la douleur est lancinante et tant qu'il y a de l'enflure. Ensuite, on peut ajouter à ça de la médication anti-inflammatoire, analgésique, relaxante. Alors là, on va voir, on est rendu au médecin, puis le médecin peut prescrire l'une ou l'autre de ces médications-là. Un autre élément, la rééducation. Dès que notre enflure est diminuée, puis que la douleur est diminuée, on fait de la rééducation. Soit on va en physiothérapie ou le médecin nous dit quoi faire au niveau de la mobilisation du membre. Il faut vraiment le pratiquer. Là, c'est le temps de bouger. On veut plus que le tendon reste immobile. Mm-hmm. On veut le réactiver, lui redonner son élasticité exactement. Ensuite, il y a d'autres techniques qui existent comme l'ultrason. Et puis, certaines formes d'injection que l'orthopédiste ou le rhumatologue peut faire localement.
Mais Jocelyne, on ne peut pas arrêter de travailler ou si l'on est un sportif, un athlète, arrêter d'exercer notre sport. Comment tout ça peut s'arrimer?
Ben oui, on arrête. Carrie Price est en arrêt.
Ah, c'est vrai. Si Carrie Price peut arrêter.
Carrie Price est en arrêt. Oui, ça prend un arrêt de travail qui peut durer un mois de temps, même prolongé, jusqu'à ce qu'on puisse un peu avoir moins de douleur et retrouver une mobilité acceptable. La phase de la rééducation va permettre de revenir au travail.
Est-ce qu'il y a des façons de prévenir? J'avais déjà entendu parler de boire beaucoup d'eau. Est-ce que c'est un mythe?
Non, ce n'est pas un mythe. L'hydratation est toujours recommandée, surtout pour les sportifs. Ici, là, c'est très recommandé pour avoir justement une bonne élasticité et avoir des bonnes articulations. L'hydratation est importante. C'est des bonnes pratiques de posture, des bonnes pratiques sportives. Alors, je peux donner comme exemple, dans la bonne pratique sportive, ben c'est de s'étirer, s'échauffer une dizaine de minutes avant de partir et de s'étirer après des mouvements d'effort continus. Oui.
Et au boulot, on s'arrange pour avoir un poste, chaise, écran, clavier qui sont coordonnés. Oui. Ça, c'est important et c'est la base là, pour être au travail en santé. Jocelyne Gadebois,
toujours poste de travail adapté.
Poste de travail adapté, échauffement avant l'exercice. Merci, toujours un plaisir, Jocelyne Gadebois. On se retrouve dans 2 semaines.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Merci, Jean-Sébastien. La liberté derrière ta console, c'est Marianne Paquette. Portez-vous très bien. À la prochaine. Bye-bye.